France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Harvard ce soir.
The problem with Harvard is that there are about 31%, almost 31% of foreigners coming to Harvard.
Allez, vous l'avez reconnu, c'est Trump hier devant son hélicoptère. Le problème avec Harvard, dit-il, c'est que c'est presque 31% d'étudiants qui viennent de l'étranger et ils refusent de nous dire qui ils sont. 31%, c'est trop. Les Américains qui souhaitent étudier à Harvard comme ailleurs ne trouvent pas de place. Elles sont toutes occupées par des étrangers. Bonsoir Vincent Ponce.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université d'Harvard, vous enseignez à la Harvard Business School, vous êtes aussi meilleur économiste 2023, vous travaillez sur l'économie politique et le fonctionnement de la démocratie, ce qui fait de vous vraiment un homme aux premières loges dans la bataille qui se joue entre Trump et Harvard, Trump et les universités. On va parler de ces dernières déclarations, le mot bataille d'ailleurs, Vincent Ponce, entre Harvard et l'administration, est-ce qu'il est assez fort? Vous avez-vous écrit récemment qu'Harvard était entré en résistance? Est-ce que c'est une guerre qui est en cours?
Oui, c'est une guerre que l'administration Trump a débutée. Ce n'est pas Harvard qui décide d'être dans cette guerre, mais je crois que c'est une guerre et l'administration Trump utilise absolument tous les moyens à sa disposition pour faire plier Harvard. Et c'est des moyens qui sont très largement illégaux, qui sont destinés à ce que Harvard rentre dans le rang et se plie aux demandes du pouvoir exécutif.
Et vous le dites, hein, se plie aux demandes, les salves elles sont régulières. Il y a d'abord eu effectivement un gel des subventions fédérales, il a tenté de mettre fin aux inscriptions d'étudiants étrangers, on va évidemment y venir. Au recrutement des professeurs sans un aval de l'administration, ce matin on a remis une couche, il a demandé aux agences fédérales de mettre fin à tous leurs contrats. Il y a le fond, il y a la forme. D'abord, est-ce que, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se bat, et qu'elle se bat tellement, est-ce qu'Harvard est assez forte pour survivre financièrement? Son matelas de donation, est-ce que ça fait de Harvard un lieu où on peut se battre indépendamment de l'administration?
Harvard est une institution qui est très puissante. Comme vous l'avez indiqué, elle a ce fonds de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui a été accumulé grâce à des donations au cours des années. Mais évidemment, on se bat à armes inégales, puisqu'on se bat contre le pouvoir exécutif américain, qui est peut-être l'adversaire le plus puissant au monde. Donc je crois que ce qui est important de considérer, c'est que ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'avenir d'Harvard, mais c'est l'avenir de la liberté académique, de la liberté de parole. Et donc j'espère que d'autres universités vont soutenir par différents moyens les actions d'Harvard, de telle sorte que le combat soit un petit peu moins inégal.
Jusqu'à présent, vous avez l'impression d'être un peu seul au monde. Évidemment, l'exemple auquel on pense, c'est Columbia, dont on a le sentiment qu'ils ont plié, ce qui n'a pas arrêté les attaques d'ailleurs. Est-ce que vous êtes seul au monde ou est-ce que vous êtes, encore une fois, les plus forts avec le plus gros matelas financier? Et même si ce n'est pas que l'argent qui compte, évidemment que ça compte. Donc pour ça, c'est pour ça que vous êtes en pointe de ce combat-là, à votre avis ou pas?
Le combat est en grande partie symbolique et Trump, en attaquant Harvard, envoie des signaux à toutes les autres universités. Le signal, c'est attention, si vous ne vous soumettez pas à mes demandes, voici ce qui va vous arriver. Et évidemment, comme Harvard est une université très ancienne, une université très célèbre, tout ce qui se passe à Harvard est couvert par le monde entier. Et donc, chacun prend note de ce qui pourrait lui arriver s'il décidait de se tirer le courroux de Trump.
Parce que, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, Harvard, comme la plupart des universités américaines d'ailleurs, c'est pas juste une université, entre guillemets, c'est une pépinière de recherche. Ça veut dire qu'obliger les agences à couper le cordon, c'est aussi stopper des recherches médicales, des recherches en sciences sociales où vous êtes en pointe. C'est l'innovation, c'est le sens critique. Ça veut dire qu'il veut pas seulement vous assécher financièrement, évidemment, il veut faire de vous une coquille vide. Comment décririez-vous ce que vous représentez, qui est l'antithèse de l'administration aujourd'hui et justement que Trump voudrait voir disparaître?
Je crois qu'Harvard est une université qui a une mission globale, une mission internationale. Elle a une double mission, une mission d'éducation et une mission de recherche. Le président Trump aujourd'hui s'attaque à ces deux piliers. Pour la recherche, vous l'avez dit, il prive Harvard de subventions auxquelles l'État fédéral s'était engagé. C'est pas des subventions qui sont données gratuitement, c'est des subventions qui sont adossées à des programmes de recherche sur le cancer, sur les maladies rares, en sens social également, sur la démocratie. Et puis, il s'attaque à la mission d'enseignement en privant Harvard de la possibilité d'attirer des étudiants étudiants étrangers. C'est à peu près un tiers des étudiants hein, qui sont des étudiants internationaux. Un peu plus d'un quart pour l'université dans son ensemble, et à la business school, c'est plus d'un tiers.
Qu'est-ce qui se passerait si ces étudiants étaient désormais interdits d'étudier? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense à quelqu'un comme vous, hein, par ailleurs, puisque vous êtes français, mais vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si demain, ces 31% d'étudiants disparaissaient d'Harvard? Qu'est-ce qui se passe académiquement parlant? Qu'est-ce qui se passe pour le futur de votre université?
Moi, j'enseigne dans des amphithéâtres qui contiennent 90 sièges. Donc, si un tiers des étudiants de la business school disparaissent, parce que c'est des étudiants internationaux, ça veut dire qu'un siège sur trois sera laissé libre. Donc, ça a une conséquence très directe pour l'enseignement. Ça affectera le contenu de l'enseignement aussi, puisque nos cours sont très souvent participatifs. On utilise l'expérience des étudiants étrangers. Si, par exemple, j'enseigne un cours sur la démocratie ou sur le capitalisme, c'est très précieux d'avoir l'éclairage d'étudiants qui sont nés dans un autre pays, qui ont grandi dans un autre pays, et qui peuvent donc comparer leur expérience avec ce qu'ils rencontrent aux États-Unis. Il y aura aussi des conséquences pour la recherche, puisque de très nombreux laboratoires de recherche sont basés sur des étudiants en doctorat, des étudiants en pré-doctorat, des étudiants en post-doctorat, qui sont aussi des étudiants étrangers et qui devraient, si l'ordre de Trump était mis en application, devraient quitter le pays.
Pour l'instant, devant les tribunaux, hein, pour donner un peu de sous-texte, vous avez gagné, si je puis dire, à Harvard la première salve, puisque l'interdiction des étudiants étrangers a été suspendue, mais après-demain jeudi, viendra une autre décision qui dira si cette suspension peut continuer ou pas. Est-ce que vous avez une crainte, Vincent Ponce? Est-ce que faire de vous une coquille vide, l'administration peut y parvenir par les coups de boutoir qui sont ceux que vous subissez aujourd'hui?
Moi, je reste convaincu que la décision de Trump est illégale, hein, puisque aujourd'hui, ce qu'il reproche à Harvard, c'est de ne pas avoir fourni assez d'informations sur les étudiants étrangers. Or, Harvard a donné les informations que Harvard devait donner. Donc, aujourd'hui, les informations supplémentaires qui sont exigées sont des informations que Harvard n'a pas à donner. Et en réalité, il violerait d'autres lois en se pliant à cette demande de l'administration de Trump. Donc, je suis convaincu que le droit est de notre côté. Il reste à savoir si la justice va jouer son travail et si ensuite Trump va accepter les décisions de justice qui vont à son encontre.
Mais qu'est-ce qu'il veut savoir, en fait? On a bien compris qu'il veut savoir, évidemment, quel pays, mais il veut aussi savoir quelles idées, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir de la part de ces étudiants-là? Et d'ailleurs, de certains professeurs aussi et de leur type d'enseignement?
En fait, ils cherchent à avoir une ingérence absolument totale dans les activités de l'université. Donc, ils cherchent à obtenir une liste d'étudiants qui ont été sanctionnés pour des raisons qui sont des raisons scolaires. Ils cherchent à avoir la liste des étudiants et des vidéos qui montrent des étudiants qui, par exemple, protestaient contre Israël et ce qui se passe à Gaza sur l'année écoulée. Il cherche à pouvoir donner son accord sur l'embauche de professeurs, sur la sélection d'étudiants, pour s'assurer, par exemple, que le profil idéologique de ces professeurs, de ces étudiants est suffisamment divers. C'est tout un ensemble de sujets sur lesquels l'exécutif n'a absolument rien à dire. Et donc, c'est vraiment un abus de pouvoir exécutif dont il s'agit aujourd'hui.
Est-ce que déjà, vous diriez, Vincent Ponce, que tout cet embroglio politique et cette crainte, parce qu'il y a une crainte de la part de certains étudiants, que cette crainte fasse que on hésite aujourd'hui à entamer un cursus à Harvard parce qu'on est plus sûr de pouvoir le terminer? Est-ce que déjà vous le sentez ou pas?
C'est certain qu'à court terme, si vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes dans une situation de grande incertitude. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir continuer vos études à la rentrée. Si vous êtes un étudiant qui devait commencer en septembre, vous ne savez pas si ça sera possible. Donc la réputation à très court terme d'Harvard et des États-Unis est entachée, puisqu'il y a un ensemble de promesses hein, sur la possibilité d'étudier à Harvard qui ne sont plus tenues. Mon espoir, c'est qu'à long terme, la réputation d'Harvard soit grandie, hein, puisque ça sera l'une des universités, l'une des institutions, même l'une des seules institutions aux États-Unis qui a résisté, qui a dit non et qui n'a pas joué cette stratégie d'apaisement que, par exemple, Columbia a utilisé jusqu'à présent et qui ne paye pas, puisqu'on est face à un pouvoir qui va aussi loin qu'il le peut. Donc, si on cherche à apaiser, les demandes deviennent de plus en plus exagérées.
Et après, le risque, peut-être, dans ce que vous dites, Vincent Ponce, c'est qu'il y a déjà aux États-Unis, de toute façon, un enseignement à plusieurs vitesses, puisque les universités, elles coûtent cher, mais il y a le risque aussi d'avoir au fond, les universités libres comme vous et libres de tous engagements vis-à-vis de l'État qui ont réussi à tenir le coup parce qu'elles ont résisté et parce qu'elles sont fortes financièrement. Et puis aussi les autres, peut-être même que celles qui ont résisté seront plus chères parce que pour résister financièrement, il faudra plus d'afflux financiers. Donc on aura vraiment des universités à plusieurs vitesses, encore plus aujourd'hui qu'autrefois aux États-Unis. Non, est-ce que ce n'est pas ça le risque ?
Pour moi, le risque est en effet un risque global qui dépasse Harvard. C'est un risque sur la liberté de parole, sur la liberté académique. Les États-Unis sont un pays qui s'est construit grâce à des vagues d'immigration, sont un pays qui aujourd'hui domine également sur le plan économique, sur le plan de la santé, en raison de la qualité de sa recherche, de la qualité de sa science. Et aujourd'hui, Trump a débuté une guerre contre ses piliers du modèle américain, et je trouve ça très inquiétant qu'aujourd'hui il n'y ait pas davantage de voix qui s'élèvent pour faire résistance, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous étonne qu'il n'y ait pas tant de voix que ça, ou pas ?
Ça ne m'étonne pas tant, puisque la stratégie de Trump est très brutale.
C'est celle de la peur ? Vous diriez que c'est la peur qui fait que vous êtes rare à parler, ou pas ?
C'est celle de la peur, de la menace. Il envoie des signaux très clairs qui indiquent que si on ne se plie pas, on va être sanctionné aussi brutalement que possible. À Harvard, il s'agit quand même de 9 milliards de dollars de subventions, mm-hmm. de la possibilité de continuer à accueillir des étudiants internationaux. Enfin, c'est très, très, très brutal. Et donc, chacun, dans ce contexte, se dit « je vais essayer de garder ma tête basse en espérant ne pas être la cible suivante de l'administration ». C'est une stratégie qui peut-être a du sens sur le plan d'une organisation individuelle, mais je crois que c'est une stratégie qui est dévastatrice sur le plan global, et qu'au contraire, il faudrait que les universités joignent leurs forces pour, par exemple, s'engager à ce que si l'une d'entre elles est touchée, si l'une d'entre elles est la prochaine cible de l'administration Trump, les autres vont résister, à la fois par des voies de justice et en menant un combat de l'opinion publique.
Pour l'instant, pourquoi, à votre avis, au-delà de la peur, pourquoi cette union de toutes les universités n'a pas pu se faire ? Est-ce que c'est parce qu'au fond, université privée contre une autre université privée, une autre université privée, vous êtes après tout les uns et les autres en concurrence ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'international des universités américaines aujourd'hui pour lutter contre ça ?
Alors, il y a des voix qui se sont élevées. Il y a par exemple des syndicats qui défendent les professeurs de toutes les universités et qui ont élevé leur voix. C'est aussi que la coordination, ça met du temps à se mettre en place. On a l'impression, là, on oublie parfois, mais Trump est seulement au pouvoir depuis quelques mois. Cette guerre qu'il a débutée, il l'a débutée il y a un ou deux mois. Et donc, ça met du temps avant que chacun unisse ses forces, avant que des procès, par exemple, globaux puissent être intentés. Mais j'ai confiance, et quand je parle à des collègues qui sont dans d'autres universités, ils soutiennent de toute leur force la résistance d'Harvard.
Est-ce que ça s'est passé comme ça, Harvard ? D'ailleurs, on vous a dit à tous, allez-y, vous pouvez y aller, parler, raconter comment ça se passe. Est-ce que ça a été presque un mot d'ordre, en fait, y compris entre vous, les enseignants ?
Non, il n'y a pas eu de mot d'ordre sur le fait que, par exemple, il fallait davantage parler. Beaucoup, par exemple, ne souhaitent pas parler parce qu'ils sont dans des situations qui sont plus précaires que la mienne. Moi, je suis sur une carte verte, donc je suis peut-être un peu plus protégé que quelqu'un qui est sur un visa. En revanche, ce que j'ai pu constater, c'est que suite aux attaques de Trump, il y a eu vraiment ce phénomène où on avait désormais un ennemi commun, un ennemi brutal, et donc toutes les parties de l'université se sont resserrées autour du président Alan Garber. Il faut savoir qu'Harvard est une université qui comporte beaucoup d'écoles. Il y a l'école de médecine, il y a l'école de santé publique, la business school, etc. Certaines de ces écoles ont été plus affectées que d'autres, notamment l'école de santé publique dépend en très grande partie pour son financement des subventions fédérales. Et toutes les écoles ont choisi de faire un effort, comme la business school, qui est moins directement affectée, pour pouvoir aider autant que possible nos collègues
faire un effort,
dans ces écoles
dire...
qui sont plus affectées.
Par exemple, est-ce que vous avez baissé vos salaires, par exemple, dans la section économique pour pouvoir aider les autres ? Est-ce que ça va jusque-là ?
Alors, il y a eu plusieurs initiatives. Au niveau de la business school et au niveau des autres écoles, il y a eu une réduction des budgets de recherche, un gel des embauches pour réduire les coûts autant que possible. Et puis, certains professeurs, dont je fais partie, ont choisi eux-mêmes de réduire leur salaire de 10% pour l'année qui vient. Donc, ça reste symbolique. C'est pas ce 10% de réduction des salaires qui va combler le gel des subventions fédérales, mais c'est une façon de montrer notre soutien aux collègues qui sont encore plus affectés que nous.
On comprend, et ce sera ma dernière question, Vincent Ponce, devant vos étudiants, vous parlez d'économie politique, et je le disais, vous parlez aussi de fonctionnement de la démocratie, Donc on voit bien à quel point on est à la fois dans un test constitutionnel pour les États-Unis, mais aussi démocratique. Vous, avec votre carte verte, est-ce que vous vous êtes dit, de toute façon, je peux partir et même peut-être je vais partir? Est-ce que vous vous dites, ma place est dans ce combat-là, y compris avec ma carte verte? Est-ce que votre combat, il est aussi de se dire, ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis, peut-être pend au nez d'autres universités ailleurs dans le monde?
Ouais, donc c'est une question importante que vous posez. Il y a une dimension personnelle et pour moi, la réponse pour l'instant a été de dire je mène le combat depuis l'université. Il y a une question au-delà de cette dimension personnelle sur ce que la guerre actuelle qui a été débutée par l'administration Trump signifie sur la démocratie aux États-Unis. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence. La démocratie est en recul aux États-Unis. On savait que dans des pays comme la Hongrie, comme l'Inde, la Turquie, la démocratie était affaiblie. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, même dans les plus anciennes démocraties occidentales, qu'il s'agisse des États-Unis, mais aussi de la France, d'autres pays européens, on a un recul. Il me semble que c'est tout à fait inquiétant et je crois que c'est la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de faire ce qu'il peut à son échelle pour raviver cette démocratie qui est en danger.
Voilà, pour l'instant, en tout cas, vous y êtes et vous y restez à la Harvard Business School. Vincent Ponce, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Pologne où le camp Donald Tusk s'inquiète du second tour des présidentielles. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, le gang habituel, c'est Kevin Dufraîche sous les radars.
Le Ghana ferme son ambassade aux États-Unis pour une affaire d'escroquerie.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir, on en parlait à l'instant. La démocratie est en recul partout dans le monde. Je vous expliquerai pourquoi et comment.
Et Caroline Gillet, Caroline au Pays des 27. Bonsoir Corinne. Caroline.
Bonsoir Fabienne. Des juristes ont mis en demeure la Commission et le Conseil pour inaction à Gaza. Alors que peut le droit et que peut l'UE pour les Gazaouis?
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine, il passe comme tous les soirs par la playlist d'Inter et le choix de Djoubaka et Tyler, The Creator et Tizo Touchdown, Darling Eye. À tout de suite.
Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us.
Jet.
Darling, I keep
falling.
Ready to drift, La Ferrari handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the rose, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many rules, I'm too curious to try to be. Hiding things, feel ashamed of the side of me. Cause honestly, tea is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human, if it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being, I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever it's so goddamn long. I like a long time, I'm on my own time. I love this good old, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody could fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on.
Le reportage d'Un jour dans le monde est en Pologne ce soir où se tiendra ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat proche du Premier ministre, Donald Tusk, est sorti en mauvaise posture devant son opposant soutenu par les nationalistes et les conservateurs du PiS qui pourrait bénéficier d'un report de voix plus favorable. Et s'il l'emporte, il l'a promis, il mettra son veto à toute tentative de libéraliser le pays. Énormes enjeux donc et une gauche qui essaye d'inverser la vapeur. Le reste, c'est Adrien Sarlat qui raconte.
Deux marées humaines se sont déversées dans les rues de Varsovie ce dimanche, suivant un itinéraire parallèle mais sans jamais se croiser. D'un côté, les partisans de Karol Nawrocki se sont retrouvés pour soutenir leur candidat, dont l'élection permettrait de museler la libéralisation du pays voulue par Donald Tusk.
On est là pour préserver ce qu'on a obtenu sous le gouvernement du PiS.
De l'autre, c'est Rafał Trzaskowski qui est présenté comme l'espoir d'en finir avec le conservatisme qui pèse sur la société.
Nous avons vécu les communismes, etc. Alors on trouve que c'est la voie unique pour la Pologne, c'est d'être en Europe. Avec Rafał Trzaskowski.
La veille, une poignée de citoyens plutôt libéraux se sont retrouvés pour préparer des pancartes de soutien à celui que certains qualifient de candidat par défaut.
Venez, je vais vous montrer ce que j'ai dessiné.
Le peintre Max Korwider a fait le déplacement spécialement depuis Poznań pour se joindre à eux.
Ça là-bas, c'est mon père qui l'a dessiné. C'est un jeu de mots avec ton vote, ton destin. Nous, vous, eux et tout le monde derrière Rafał. J'ai aussi dessiné un panneau interdit de tourner à droite ici. Mais ça, ça se passe d'explication.
Pinceau à la main, Victoria, elle, dessine un drapeau arc-en-ciel sur sa pancarte pour accompagner son slogan.
J'ai écrit « Je veux rester ici » parce que je ne veux pas avoir à quitter la Pologne. Je ne veux pas voir revenir les zones anti-LGBT. Je veux pouvoir me paxer avec ma copine et ne pas avoir à me dire que s'il lui arrivait quelque chose, je n'aurais même pas le droit d'aller la voir à l'hôpital.
Alors dimanche, elle donnera son vote au candidat qui défend les minorités.
Je ne suis pas pour Trzaskowski et je ne suis absolument pas fan du parti de Donald Tusk, car pour moi, il pave le chemin à l'extrême droite. Mais là, on a le choix avec Karol Nawrocki, qui prône un nationalisme, alors je pense que Trzaskowski est le moins mauvais choix dans ce scrutin.
Comme de nombreux électeurs qui s'étaient mobilisés pour faire élire Donald Tusk il y a un an et demi, elle a été très déçue l'été dernier lorsque la loi pour la dépénalisation de l'avortement s'est retrouvée bloquée au sein même de la coalition par sa frange la plus conservatrice. Malgré tout, Mariana, elle, reste convaincue que le maire de Varsovie est le meilleur allié des droits des femmes dans cette course à la présidentielle.
Mon utérus ne dépend pas du président. C'est une référence au fait que le PiS a mis en place cette terrible loi qui fait qu'on ne peut pas décider de ce qu'on fait avec notre propre corps, notre santé, notre vie et notre futur.
En quelques coups de peinture aérosol, l'artiste Bartłomiej Kiełbowicz esquisse un drapeau européen. Lui n'a pas voté pour le maire de Varsovie au premier tour, mais il lui apparaît aujourd'hui comme le seul rempart des progressistes.
On se souvient très bien de ce à quoi ressemblaient les 8 ans sous le gouvernement du PiS, et on ne veut plus de ça.
Effrayé par la poussée du parti réactionnaire Konfederacja au premier tour, c'est lui qui est à l'initiative de cet atelier pancarte aujourd'hui.
On veut se battre contre Karol Nawrocki, mais aussi contre l'extrême droite. Car quand on voit que les deux candidats d'extrême droite ont cumulé plus de 20% des voix au premier tour, c'est alarmant. Il faut s'y opposer.
À la fois conservateur sur les questions de société et libéral sur le plan économique, le parti de Sławomir Mentzen a obtenu le soutien de plus de 36% des électeurs de moins de 30 ans. Et alors que les sondages prédisent pour l'instant une égalité dans les urnes ce dimanche, le report des voix de ces jeunes électeurs pourrait bien définir l'identité du prochain président polonais.
Adrien Sarla pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord en Inde que nous sommes, Kevin, sur les côtes du Kerala.
En alerte, cet état de l'extrême sud-ouest du pays après le naufrage d'un porte-conteneur ce week-end à environ 70 km au large de Kochi. Si les 24 membres d'équipage ont rapidement été secourus, les 640 conteneurs ont sombré avec le navire qui les transportait. Certains se sont déjà échoués, comme le montrent des images sur les réseaux sociaux. Et les autorités craignent désormais une marée noire, d'abord parce que le cargo transportait près de 400 tonnes de carburant. Des opérations sont en cours pour tenter de détruire la nappe d'hydrocarbures qui se forme. Et ensuite parce que dans la cargaison figurent plusieurs dizaines de conteneurs remplis de matières dangereuses et polluantes, notamment du carbure de calcium, un produit chimique utilisé pour les engrais et la sidérurgie. Les zones littorales sont placées en état d'alerte maximale. Les habitants sont appelés à la prudence et à ne surtout pas toucher les conteneurs échoués.
Nous sommes aux États-Unis avec une fermeture inhabituelle.
Oui, celle d'une ambassade, et ce n'est pas là pour une quelconque brouille diplomatique, non, mais pour une enquête concernant une potentielle escroquerie. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana a annoncé donc la fermeture temporaire de la représentation diplomatique de son pays à Washington. D'après le communiqué qu'il signe, un membre du personnel et plusieurs collaborateurs de l'ambassade sont soupçonnés d'avoir mis en place un système pour soutirer de l'argent aux demandeurs de visa et de passeport. Ils ont en fait mis en place un lien sur le site internet de l'ambassade pour rediriger les usagers vers une entreprise privée qui leur facturait des frais entre 30 et 60 dollars pour faire leurs papiers, de l'argent qui tombait donc directement dans leur poche. Conséquence, le personnel ghanéen de l'ambassade a été rappelé au pays et le personnel recruté sur place aux États-Unis est suspendu le temps de l'enquête. Nouvelle illustration de la politique de tolérance zéro face à la corruption prônée par le nouveau président du Ghana, John Mahama.
Et puis nous sommes en Belgique, avec un coup de gueule.
Oui, celui de Francky Démon, élu au conseil municipal de Bruges, qui dénonce auprès de la chaîne américaine CNN un manque de respect. Il parle là des pavés qui disparaissent de sa ville, une cinquantaine par mois, affirme-t-il. Un phénomène qu'il attribue aux touristes qui voudraient repartir avec un souvenir de la cité flamande, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputée entre autres pour ses jolies ruelles médiévales pavées, donc une cinquantaine par mois dérobée selon l'élu. Et le phénomène s'amplifie au printemps et en été. Quiconque marche dans Bruges traverse des siècles d'histoire, laissez ce pavé où il doit être, clame Francky Démon, qui indique que chaque mètre carré à rénover coûte 200 euros à la commune, d'une part, et d'autre part que ça crée des problèmes de sécurité. Un pavé en moins, c'est un trou supplémentaire et un piège potentiel pour les piétons et les cyclistes.
Voilà, sous les pavés, un trou. C'est pas avec un slogan pareil que vous auriez fait mes 68.
Non, ça aurait fait
Kevin,
moins fureur.
Merci beaucoup, vous partez avec un cheval sans nom, ça va pas être facile. America, a horse with no name, dans Un jour dans le monde et sur France Inter. With no name, America. Vous êtes dans Un jour dans le monde et le monde à 18h50. C'est Louise Baudet.
How dare you? World has
changed. Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Louise, la démocratie en recule partout dans le monde. On dirait la sombre prédiction de pessimistes invétérés. Mais vous nous expliquez pourquoi cette affirmation est tout sauf un fantasme.
Oui, le constat est alarmant pour qui pense comme Churchill que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, il y a dans le monde plus d'autocratie que de démocratie. 91 contre 88, décompte établi par le dernier rapport annuel d'un d'un institut de recherche indépendant basé en Suède. Depuis 10 ans, l'institut VIDEM, comme Variety of Democracies, avec l'accent, conceptualise et mesure la démocratie sur le temps long à partir de dizaines de millions de données collectées et analysées par 4200 experts à travers le monde.
Alors, pour bien comprendre, comment est-ce que cet institut classe les régimes politiques ?
Alors, il retient 4 grandes catégories, avec d'un côté du spectre la démocratie libérale, où les élections sont équitables, la liberté d'expression et d'association assurée, où le pouvoir exécutif est encadré, où les libertés civiles sont protégées et où l'égalité devant la loi est assurée. Et puis, à l'autre bout du spectre, l'autocratie fermée. Pas d'élections multipartites, pas de liberté d'expression. En d'autres termes, la dictature. Entre ces deux catégories, on trouve la démocratie électorale, où les élections sont libres, mais où le pouvoir exécutif est moins encadré, disons. Et puis, l'autocratie électorale, où il y a des élections, mais où les autres libertés fondamentales ne sont pas ou peu respectées. D'autres parleront de démocratie illibérale.
Et c'est de ce côté-là, donc, que penche plutôt la balance.
Oui, clairement, alors que plus de la moitié de la population mondiale vivait dans une démocratie il y a 20 ans, l'équilibre bascule aujourd'hui largement en faveur des autocraties où vivent presque les 3/4 des habitants de la planète. L'an dernier, 45 pays étaient en voie d'autocratisation contre 19 seulement progressant sur la voie démocratique, c'est 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Tous les indicateurs sont au rouge, liberté d'expression, liberté d'association, sincérité du scrutin électoral et la tendance est particulièrement sensible en Asie centrale, Asie du Sud et en Europe de l'Est, où la Hongrie est un cas d'école, du fait du démantèlement progressif des contre-pouvoirs depuis l'élection de Viktor Orban en 2010. Exemple type, mais pas unique, de l'autocratie électorale. La Slovaquie et la Slovénie notamment sont dans les radars de l'Institut VIDEM.
Et alors, Louise, on l'a un peu évoqué avec notre invité à Harvard tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il en est des États-Unis ?
Alors, il est trop tôt pour que cette 9e édition du rapport constate les changements liés à l'élection de Donald Trump, mais l'Institut s'attend à ce que le régime américain soit rétrogradé l'an prochain, de démocratie libérale à démocratie électorale, si Donald Trump continue à user et abuser de son pouvoir exécutif, notamment de ses décrets signés à la chaîne. Un état du monde, Fabienne, d'autant plus préoccupant qu'il rejoint les aspirations d'une partie des citoyens des pays démocratiques. La tentation autoritaire gagne du terrain au rebours des années 1990 qui ont vu naître ou renaître la démocratie suite à l'effondrement du bloc soviétique et à la fin de l'affrontement Est-Ouest. C'est désormais l'ère du repli, à mesure que monte la défiance vis-à-vis de gouvernements jugés inefficaces. Ainsi, le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof, rendu public en février dernier, met en lumière une aspiration croissante à un pouvoir fort et centralisé. 41% des Français se disant prêts à tester un pouvoir autoritaire.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain. Le mardi, Caroline Gilles tape aux portes de l'Europe et elle rentre.
France Inter, le 18-20.
Caroline, dans le dernier épisode de cette chronique, vous dressiez le portrait d'une jeune chercheuse qui travaillait sur les questions de transparence.
Oui, et je continue aujourd'hui de vous proposer des portraits d'universitaires qui tentent de changer l'UE. Cette semaine, on est avec Lina Maziz, 31 ans, docteur en droit, spécialiste du contentieux international à Paris 2. Et elle fait partie du Jurdi, l'association qui a mis en demeure la Commission européenne et le Conseil pour inaction à Gaza. Lina enseigne en ce moment à Istanbul. Et elle a un profil étonnant. Elle est prof de droit le jour et le soir. Elle s'entraîne, elle est championne de kendo. Vous connaissez Fabienne ?
Pas du tout.
Une technique d'escrime au sabre qui nous vient des samouraïs. Voilà une note vocale de sa part envoyée depuis un bateau turc.
Là, je suis dans le bateau. Donc, je vais bientôt descendre pour rejoindre le lieu d'entraînement. Comme commence à faire sombre, certains autres bateaux traversent dans le sens inverse. Dont les lumières sont allumées et ça fait un peu comme des lucioles.
Cette chronique nous embarque vraiment dans des lieux improbables, comme cette salle de volley dans une école de Moda, un quartier d'Istanbul, au bord du Bosphore, où Lina enregistre pour nous les cris très codifiés de son entraînement de kendo.
Cet exercice s'appelle Kirigaishi et consiste en une répétition de frappes. Là, ce sont les pratiquants sans armure qui font des actions dans le vide en visant et travaillant le geste et ça s'appelle Subuli.
Lina a commencé le kendo en banlieue sud de Paris, à Maison-Alfort. Elle était la seule fille et la seule jeune de son club à s'entraîner là. Elle a persévéré jusqu'à devenir deux fois championne d'Europe en équipe. Et en parallèle de ses entraînements, elle a fait une thèse en droit sur les contentieux internationaux. Et quand je lui demande si la résolution des conflits internationaux est un sport de combat, elle répond oui. Parce que tous les coups ne sont pas permis, et comme dans le kendo, il faut un arbitre, un tiers impartial et indépendant qui veille. Et c'est ainsi qu'avec le Jurdi, l'association de juristes pour le respect du droit international où elle est bénévole, ils ont mis en demeure il y a quelques semaines l'Union européenne pour, je cite, manquement à son obligation d'agir face au risque avéré de génocide à Gaza.
Les clarifications ou les rappels du droit sont importants. Après tout, il y a des règles. Les États ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Il y a des moyens d'action à la disposition de l'Union européenne et qui, je crois, peuvent être vraiment efficaces.
Dans sa mise en demeure, le Jurdi demande à l'Union européenne de dénoncer les crimes en cours, de revoir son cadre de relations avec Israël et notamment l'accord d'association qui a été signé avec l'UE en 1995 et qui régit leurs relations politiques et commerciales.
L'Union européenne est un partenaire commercial important de l'État d'Israël et donc s'il y avait des mesures qui étaient prises relatives à l'accord d'association, typiquement, je pense que ça aurait des conséquences.
Il faut savoir que l'Union européenne est de loin le principal partenaire commercial de l'État hébreu. 24% de ses exportations ont pour destination les 27, contre 1% seulement du total des exportations de l'UE vers Israël.
L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est un instrument de libre-échange, l'article 2 de cet accord rappelle les droits humains et les valeurs démocratiques, les principes démocratiques. Une autre option, c'est évidemment les sanctions. La forme la plus connue, c'est le gel de fonds, le gel d'avoir, qui vise là des individus, bon, le chef de l'État, par exemple, ou le chef de gouvernement.
Mais pour ça, il faut un consensus. J'ai parlé à un fonctionnaire proche du dossier qui explique qu'il faut bien faire la différence entre, d'une part, le travail fait par les services de la Commission. En avril dernier, ils ont annoncé un nouveau plan d'aide de 1,6 milliard d'euros à l'autorité palestinienne. Une aide humanitaire, juridique et pour soutenir les réformes. Mais d'autre part, il y a Gaza. Et là, c'est politique. Or, il y a une paralysie du côté des commissaires des chefs d'État. Kaya Kallas, qui est en charge de la diplomatie européenne, a bien annoncé qu'il fallait évaluer si Israël respecte bien les termes de l'accord d'association entre l'UE et l'État hébreu. Mais l'Italie, la Croatie et l'Allemagne s'opposent. Ça paralyse tout, car pour suspendre l'accord, il faut l'unanimité. C'est donc peut-être l'action du Jurdi, une action juridique donc, qui pourrait mener à cette suspension.
Maintenant, il y a la lenteur de la justice, il y a la durée de la procédure, et on n'a aucune visibilité sur l'issue. Mais ça, c'est vrai pour tous les contentieux.
Voilà, et on suivra tout ça ici.
Et avec grand plaisir, Caroline. Merci. Grâce à vous, Caroline Gillet, à mardi prochain.